la postérité de Morel. Morel après Morel, c'est un exercice à la fois amusant et compliqué à pratiquer. Amusant parce qu'il s'agit de faire un travail de fouille, hein. Manne de Morel ou diable, vous nichez-vous aujourd'hui ? Quelque part entre la longue traîne et la bibliométrie. Compliqué parce que les traces, les citations, les hommages à Morel ne disent pas, ne traduisent pas forcément son influence, celle qu'il a eue, celle qu'il aurait encore. C'est pourtant le parti que j'ai adopté ici, la présence des œuvres de Morel, les références qui sont faites peuvent être considérées comme des survivances de sa pensée, donc comme la manifestation de sa postérité. Je ne reviens pas ici sur ce qui a déjà été dit aujourd'hui sur la pensée d'Eugène Morel, à la fois très politique et ancrée dans la technique. La modernité au service des citoyens, l'ouverture, l'utilité sociale de la bibliothèque, mais aussi le libre accès, les bibliothèques pour enfants, la documentation pratique, les horaires de train, la classification, etc. Je me suis intéressée à l'écho de la voix de Morel depuis un siècle, davantage qu'à l'influence concrète qu'il a pu avoir. Mais il est évidemment difficile de distinguer l'un de l'autre, donc je ne vais pas tout à fait répondre à l'annonce que Agnès avait fait du contenu de mon intervention. J'ai été à la pêche, je vous livre ici ce que j'ai pris dans mes filets, trois parties. Un premier contemporain de Morel, un deuxième qui serait une longue traversée du désert avec quelques oasis, et un troisième qui commence avec la publication de l'ouvrage de Jean-Pierre Séguin que nous avons déjà évoqué aujourd'hui et qui se poursuivrait donc par la pêche d'aujourd'hui. Donc dans un premier temps, Morel sous Morel. De mon point de vue, je trouve que Morel est un curieux personnage, hein, vu d'aujourd'hui, à la fois un découvreur, un meneur, un apôtre, un révolutionnaire, un génial précurseur, le, entre guillemets, pionnier de la bibliothèque publique en France, mais aussi, en même temps, un homme austère, classique, qui travaille au dépôt légal de la Bibliothèque nationale, qui donne des cours, qui fait la promotion de la machine à dupliquer les fiches de catalogue, presque un notable, il fut président de la BF en 1918, comme disait Bertrand Calange ce matin, c'est le comble du conformisme. Un défricheur aux allures d'homme ordinaire. Alors, foin de psychologie posthume, je ne vais pas m'attaquer à cet exercice, comment furent accueillies ses œuvres, je veux parler évidemment de ses œuvres principales, Bibliothèque, publiée en 1908, La Librairie publique, publiée en 1910, comment fut-il considéré de façon évidemment contrastée ? D'une part, ses amis, son groupe de collègues modernistes, Coyec, Lemaître, Henriot, l'ont évidemment soutenu, accompagné tout au long de sa vie. L'expression de leur adhésion aux idées et au travail de Morel est manifeste au moment de sa mort en 1934. Ernest Coyec, qui était sans doute son plus vieux compagnon de route, intitule sa notice, la notice nécrologique de Morel, dans la revue du livre, un grand bibliothécaire français, Eugène Morel. Il y évoque, je cite, son œuvre considérable, sa curiosité encyclopédique, sa capacité à joindre à la doctrine la réalisation concrète, les deux monuments d'une science aussi solide qu'aimable et d'une courageuse initiative. Il fait évidemment allusion à la bibliothèque et la librairie publique. Et il conclut ainsi sa notice. Quel deuil cruel pour tous les amis des bibliothèques que la mort du grand bibliothécaire et du grand citoyen que fut notre cher et inoubliable Eugène Morel. Dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire au moment de la mort de Morel, les deux Groliers qu'Agnès vient d'évoquer, Éric et Georgette, rendent hommage à son œuvre. Je les cite, ils restent des témoins de ce que fut son action vigoureuse, sa pensée claire et hardie, ses livres. On peut dire qu'ils ont fondé en France la théorie de la librairie publique. Plus loin, attaqué par les uns, discuté par d'autres, approuvé nettement par plusieurs, il avait créé un courant, remué l'opinion, brisé le cercle de la routine. Et il conclut, les deux Groliers concluent, son activité touchait à tous les domaines du livre, dans tous il était l'initiateur, l'animateur inlassable, combien tous nous perdons avec lui, il n'est pas assez de mots pour le dire. Alors attaqué par les uns, discuté par d'autres, on a du mal à le croire, mais si, à la sortie de l'ouvrage Bibliothèque, Émile Chatelain écrit « La plaisanterie dépasse les bornes », critiquant ce bibliothécaire qui n'a, je le cite, « rien vu, rien appris, rien compris à ses fonctions ». Victor Chapeau, alors conservateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, critique l'admiration de Morel pour les bibliothèques anglo-saxonnes. On est anglomane ou on ne l'est pas. Il tourne en dérision l'importance de la documentation, mais journaux à part, qu'offrira-t-on dans les bibliothèques et à quel public? Ici, M. Morel se moque de nous et s'amuse sans doute à pousser à l'absurde son paradoxe. Le livre de fondation, ce sera le bottin. Le bottin, concluant à une joyeuse bouffonnerie. Jean-Pierre Séguin, qui dans son ouvrage évoque l'accueil fait à ses travaux de Morel, souligne le finalement petit nombre de réactions, tout au moins qui nous soit parvenu jusqu'à aujourd'hui. Parce que Bibliothèque est un ouvrage nouveau, mais énorme, mal foutu, à peu près illisible, convenons-en, nous sommes entre nous. Et aussi parce que, dit Jean-Pierre Séguin, la plupart des bibliothécaires étaient des conservateurs attachés à des idées et à des pratiques traditionnelles que les positions de Morel dérangeaient. Il n'était pour certains pas loin de prendre Morel pour un fou naïvement séduit par des réalisations anglo-saxonnes. On se souvient du célèbre Hurepoix moquant l'école de la rue de l'Élysée comme l'école des chartes du Far West. Le même Hurepoix qui, dans les années 30, s'élevait contre les promoteurs de la lecture publique dans ces termes. Qui donc aura enfin le courage, au milieu de nos préoccupations dangereusement utilitaires, de nous sermonner hardiment sur l'éminente dignité des bibliothèques pauvres en lecteurs et la gloire rayonnante des beaux livres qui ne servent plus. Deuxième filet de ma pêche, la traversée du désert. Eugène Morel meurt en 1934. En 1939 paraît le tome 18 de l'Encyclopédie française, tome consacré à la civilisation du livre sous la houlette de Julien Quint, administrateur de la Bibliothèque nationale. Plusieurs articles concernent les bibliothèques, Morel n'y est quasiment pas évoqué, 5 ans après sa mort. Jean-Pierre Séguin écrit tout ceci est sage, raisonnable, sans audace. Les années 30, ça a été évoqué, sont surtout agitées de projets de réforme institutionnelle, créer une direction des bibliothèques, concevoir un réseau national et régional, ou, on l'a évoqué aussi, d'expérimentations éphémères comme le bibliobus de la Marne ou la desserte rurale par la bibliothèque de Nantes. Eugène Morel semble avoir complètement disparu du paysage. Jean-Pierre Séguin, qui a commencé à travailler à la Bibliothèque nationale en 1942, dit qu'il n'y a jamais entendu parler de lui, alors que le souvenir de Léopold Delisle, mort en 1910, y était très présent. Pour autant, Morel n'est pas complètement oublié, garde quelques lecteurs, quelques admirateurs, avant même que Jean-Pierre Séguin ne rende à nouveau ses idées accessibles par l'apparition, en 1993, de son livre d'extraits. Après-guerre, deux hommes en particulier ont continué à évoquer ses travaux, Jean Assenforder et Noé Richter. Jean Assenforder est l'auteur remarquable de « Développement comparé des bibliothèques publiques en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis dans la seconde moitié du XIXe siècle », publié en 1967. Il évoque également Morel dans un article paru dans la revue fondée par Michel Bouvy, qui vient aussi d'être évoqué, « Lecture et bibliothèque », un numéro de 1969, « Hommage à Eugène Morel, un pionnier des bibliothèques publiques ». Je cite donc Assenforder. L'histoire des bibliothèques publiques en France se caractérise par les efforts répétés d'hommes et de groupes, les avant-gardes, en vue de surmonter les routines traditionnelles et de susciter le développement des bibliothèques à l'intention du grand public. Parmi ces efforts, l'action d'Eugène Morel a été fondamentale. En effet, c'est lui qui acculture dans notre pays le concept de la bibliothèque publique, etc. etc. Assenforder résume les propositions de Morel. Les idées propagées par Eugène Morel ont progressivement une incidence pratique. Des bibliothèques s'en inspirent pour se moderniser. Il cite les incontournables bibliothèques de Levallois et de Paris. Je dis incontournables parce que systématiquement, c'est les deux seules bibliothèques qu'on évoque quand on parle de l'influence de Morel. Assenforder ajoute, si Morel a trouvé des partisans, il a rencontré également de vigoureuses oppositions conservatrices. Sa volonté de service s'oppose en effet à un esprit de caste et à un ensemble d'habitudes liées à une certaine tradition nationale. Dans son ouvrage « Développement comparé des bibliothèques publiques », etc., Assenforder est plus explicite, je le cite, « Morel rencontre de vigoureuses oppositions conservatrices. Il évolue dans un régime où le succès aux examens et aux concours, l'avancement à l'ancienneté, l'emporte sur la prise en considération de la valeur d'une recherche personnelle. » C'est à contre-courant qu'il doit agir. Il ne suffit pas, en effet, de convaincre l'opinion et les autorités de la nécessité des bibliothèques publiques. Il lui faut encore faire évoluer une mentalité conservatrice à l'intérieur même d'une profession alors en ébauche. Deuxième auteur qui cite Morel, Noé Richter. On sait que ce bibliothécaire, qui fut un moment directeur de l'UNSB, a beaucoup travaillé sur l'histoire des bibliothèques populaires et la naissance de la lecture publique. Il a publié un certain nombre d'articles dans le BBF, publié à compte d'auteur, tout au moins dans une maison qu'il a créée. Ses principaux travaux ont été publiés à la fin des années 70 et au début des années 80. En 77, il publie un long article dans le BBF qui s'intitule « Histoire de la lecture publique en France ». Il y évoque Eugène Morel. Et d'abord, sa proposition sémantique, on n'a pas vraiment évoqué, me semble-t-il, aujourd'hui, d'abandonner le terme bibliothèque pour le terme de librairie publique. Proposition qui n'eut pas de succès, on le sait. Plus intéressant peut-être, il crédite Eugène Morel d'un saut décisif, puisque la chronologie, donc avancée par Noé Richter, comprend une partie, c'est sa cinquième partie dans la chronologie de l'histoire de la lecture publique, vers la bibliothèque publique 1908-1945, qui commence ainsi. Très vite, les administrateurs et les bibliothécaires français prirent conscience de l'insuffisance et de l'inefficacité des réalisations françaises dans le domaine de la lecture publique. Dans Bibliothèque 1908 et la librairie publique 1910, Eugène Morel dénonce avec verve les caricatures de bibliothèques que sont les bibliothèques populaires et vante les vertus des bibliothèques britanniques, etc., etc. 2 ans plus tard, dans un article bien plus court et intitulé « Introduction à l'histoire de la lecture publique », Noé Richter évoque de rechef Eugène Morel et à nouveau, et cette fois tout à fait explicitement en le prenant comme but chronologique, je cite Noé Richter, « L'histoire de la lecture publique commence réellement à la même époque, lorsque la dénonciation de l'institution de lecture populaire se fit plus vive et que le modèle anglo-saxon imposa la conception d'une bibliothèque d'études, d'informations, de culture et de distractions ouverte à tous. » Pour les bibliothécaires français, on peut dater cette période avec précision. Elle s'ouvre en 1908 avec l'énorme pamphlet que Jeanne Morel publie sous le titre de Bibliothèque. Elle s'achève en 1945 avec la création d'une direction ministérielle des bibliothèques et de la lecture publique. J'ai dit que cette longue période de désert était ponctuée par ces deux oasis qui étaient les travaux d'Assène Forder et Richter. Il faut y ajouter un écrivain mauricien qui a été aussi évoqué ce matin, Gaëtan Benoît, qui fit sa thèse sur Eugène Morel, une thèse soutenue en Grande-Bretagne en 1976, publiée aux États-Unis en 2008 et jamais traduite en français. Et donc, de mon point de vue, indication ambivalente par rapport à la postérité de Morel. Une thèse, c'est un signe d'intérêt. Le fait qu'elle était édité 30 ans après avoir été soutenu et jamais traduite en français, c'est plutôt des signes d'absence d'intérêt. Une critique de ce travail a été cependant publiée dans le BBF en 1980, critique sévère. Ceux d'entre vous, d'entre nous qui ont parcouru cet ouvrage connaissent effectivement ses limites. J'en viens à mon troisième temps, troisième pêche, troisième filet, la republication des travaux de Morel, la redécouverte. Là aussi, j'ai une butte chronologique précise. Hein, 1993, Jean-Pierre Séguin, créateur de la BPI, publie un gros recueil d'extraits, « Choix de texte », dit le titre, de l'œuvre de Morel, Eugène Morel et la lecture publique, un prophète en son pays. Le but absolument affiché était de rendre à nouveau disponible la substantifique moelle de l'œuvre de Morel, dont les ouvrages de 1908 et 1910 étaient depuis longtemps épuisés et donc difficilement accessibles et peu lus. Volontairement oubliés, dit même Séguin. Je le cite, rue de Richelieu, les critiques formulées par Morel avaient vivement choqué sur le coup. Elles avaient pourtant été vite oubliées. Après tout, pouvait-on prendre au sérieux un étranger au corps des bibliothécaires sortis de l'école des Chartes, un trublion et de surcroît un romancier et un utopiste. Le mieux à faire dans une maison aussi convenable était de l'oublier à jamais. Oubli facilité par le fait que ces deux grands ouvrages étaient épuisés. Les bibliothécaires ont lu cet ouvrage, pas tous, pas beaucoup, sans doute certains en diagonale, mais l'émergence de Morel dans la presse professionnelle, l'habitude de le citer, date bien de 93, de cette édition dû au travail de Jean-Pierre Séguin. Le BBF mentionne 47 occurrences d'Eugène Morel, 21 publiées entre 1956 et 1993, j'ai fait un travail de bibliométrie, 21 entre 56 et 93, soit 0,6 par an, 26 entre 94 et 2009, soit 1,7 par an, soit 3 fois plus. Un dossier du BBF, le dossier numéro 1 de 2003, sur lequel je n'ai pas réussi à remettre la main, malheureusement, est illustré de 4 extraits de bibliothèque, mais en ligne, les extraits ont disparu, donc j'aurais voulu avoir à nouveau le document papier sous la main pour pouvoir vous le montrer. En 2006, Livre Hebdo nourrit un dossier exceptionnel sur le centenaire de la BF en interrogeant 4 bibliothécaires sur leur réaction à quelques extraits de Morel. Hein. Livredo leur propose quelques citations et ils doivent réagir. Donc les quatre bibliothécaires en question étaient Gilles Eboli, alors président de l'ABF, Claudine Belaïche, Dominique Lahari, Patrick Bazin. Donc on peut, me semble-t-il, en conclure que Morel se méconnut, s'est oublié. Morel est de nouveau présent. Présent, je l'ai dit, dans la presse professionnelle, le bulletin de l'ABF l'évoque ici et là. Présent dans Savoir CDI, qui publie une longue biographie de Morel sous la plume de Marie-France Blanquet en 2009. Présent, évidemment, dans le BBF, hein, j'ai évoqué les 47 mentions qui en sont faites, mais présent surtout extensivement. J'ai trouvé deux articles qui parlent longuement de Morel. Un qui non seulement parle longuement de Morel, mais qui en fait le sujet de son article, Robert Damien, en 2000, numéro 5, procès et défense d'un modèle bibliothécaire de la démocratie, l'exemple d'Eugène Morel. Un second, Anne Kupiec, qu'est-ce qu'un une bibliothécaire, en 2003, numéro 1, et qui évoque les positions de Morel sur la formation des bibliothécaires. À part ces deux exemples, deux seuls exemples, c'est bien de présence extensive hein, que je parle, au sens de culture extensive, hein, c'est-à-dire peu de productivité sur une grande surface. En tout, les occurrences de Morel se montent à 76. Donc, je suis arrivée à, en fait, 47 vraies mentions parce que les 31 autres, c'est « comme le disait Jeune Morel » ou « Coyec Morel et les autres ». Donc, j'ai considéré que ça n'était pas valide. Et donc, il me reste 47 textes qui, à vrai dire, pour la plupart, sont de pures allusions rhétoriques. Je vous cite quelques exemples, sans vouloir être trop longue. Bernadette Sebel, en 1987, la dénonciation par Eugène Morel au début du XXe siècle de la caricature de bibliothèque que constituaient à ses yeux les bibliothèques populaires et ses tentatives, tatitata, rencontrèrent une résistance très forte des professionnels entre les deux guerres mondiales. Moi-même, en 1994, ce parti pris architectural est, selon Eugène Morel, le parti de la vie contre la mort, entre guillemets, l'architecture d'une gare ne peut être celle d'un tombeau. Gilles Gudin-Valrat, en l'an 2000, au début du XXe siècle, les promoteurs du libre accès à la lecture publique, comme Eugène Morel, se référaient d'une façon positive aux grands magasins, tandis qu'en cette fin de siècle, certains professionnels ont peur de voir les médiathèques se transformer en centres commerciaux. Dominique Arrault, nous rejoignons ici, en 2002, nous rejoignons ici l'approche du pionnier Eugène Morel. L'école parfois s'est trompée, la bibliothèque répare, on y a fait allusion ce matin. On peut ainsi considérer, continue Arrault, le projet de l'autodidacte comme un des aspects de la construction de soi, l'assimiler à un processus de création. Valérie Ténière, en 2006, au moment où est créée l'Association des bibliothécaires français en 1906. Eugène Morel, qui a déjà tiré la sonnette d'alarme sur ce qui pouvait être un manquement aux missions des bibliothèques publiques, éveille au fond peu d'écho, etc., etc. Donc présence extensive, allusive. Faudrait-il dire, tant la réflexion de Morel, me semble-t-il, n'est là qu'en allusion, en illustration. Présent dans la presse, je l'ai dit, je l'ai évoqué, présent aussi dans quelques ouvrages. Noé Richter, à nouveau lui, La lecture et ses institutions, publié en 1989, évoque Morel, sa présence à l'inauguration de la bibliothèque de Soissons en 1921. Tout à l'heure, on se demandait quelles étaient les relations entre Morel et les Américains. Son classement, donc la bibliothèque de Levallois, la participation à l'école de la rue de l'Élysée, ses positions sur l'emploi des femmes, qu'on aurait pu évoquer, c'est assez pittoresque aussi. Mais enfin, on comprend que Richter n'est pas un enthousiaste de Morel. Dès le début de son ouvrage, il condamne l'anglo-saxomanie des modernistes du début du XXe siècle. Et d'ailleurs, dans sa bibliographie, il ne cite pas Morel, que visiblement, il n'a pas lu lui-même en direct. Le tome 4 de l'histoire des bibliothèques françaises publie un encadré « Les hommes qui ont fait la lecture publique » où Morel figure aux côtés de La Fontaine et Hautelet, d'Ernest Coyec et de Henri Lemaître. Robert Damien, et c'est sans doute lui qui en a parlé le plus longuement, évoque longuement Morel dans « La grâce de l'auteur » publié en 2003. Les pages 214-220 sont tout entières consacrées à la réflexion de Morel. À sa critique des bibliothèques, on peut aller prier dans les cimetières, on ne peut pas y travailler, à sa critique de l'école des chartes, à ses propositions pour la création d'un service public de la lecture, Damien a lu Bibliothèque et le cite abondamment. Autre publication, vous connaissez ce recueil, La bibliothèque, miroir de l'âme, miroir du monde, publié chez Autrement en 1991, comprend un article Eugène Morel et la vocation de la BN, rédigé par Jean-Pierre Séguin, qui, on l'imagine, en 1991, était en train de travailler à la publication de son ouvrage de 1993. Moi-même, dans mon habilitation a dirigé des recherches, soutenu en 2006, publié en 2009 sous le titre Bibliothèque publique et Public Library, essai de généalogie comparée. Je cite Morel en exergue. Quel pédant inventa le mot bibliothèque, laissant le mot français librairie aux Anglais? Et dans mon introduction, j'écris ceci: cet exercice d'histoire culturelle, je le place sous le patronage d'Eugène Morel, lui qui plaidait déjà il y a un siècle pour l'adoption en France de la librairie publique, etc., etc. Présent dans la presse, présent dans des ouvrages, présent dans des travaux d'étudiants, mais fort peu. Dans la bibliothèque numérique de l'ANSSI, à vrai dire, je n'ai pas fait le tour de toutes les universités françaises pour repérer les publications des travaux d'étudiants, mais dans la bibliothèque numérique de l'ANSSI, qui recense plus de 700 travaux d'étudiants, j'ai trouvé 5 travaux évoquant Eugène Morel, 3 projets professionnels, personnels, donc élaborés dans le cadre de la formation des bibliothécaires d'État, tous les 3 consacrés à la réforme du dépôt légal. 2 mémoires de DCB, un en 2001, l'autre en 2008, et qui là aussi font une allusion absolument extensive à Morel. Je cite par exemple donc le mémoire de Stéphanie David, soutenu en 2008. Les bibliothécaires, dans la lignée d'Eugène Morel et sur le modèle des bibliothèques anglo-saxonnes, étaient surtout soucieux de la démocratisation de l'accès aux bibliothèques, etc., etc. L'autre mémoire, 2001, encore plus allusif, Sylvie Martin, quelle place pour la jeunesse dans les BMVR? Eugène Morel préconise de tisser des liens étroits entre l'école et la bibliothèque publique, mais cette évolution reste marginale. Il faut y ajouter un mémoire soutenu à l'UNSB en 1979, mémoire qui, lui, est entièrement consacré à Morel, Huguette Scarlatos Brelaz, un bibliothécaire Eugène Morel, mémoire réalisée sous la direction de Pierre Gras, qui à l'époque devait être directeur de la bibliothèque de Dijon. Huguette Scarlatos Brelaz, dans son mémoire, évoque la vie de Morel, ses travaux, les réactions de ses contemporains, le quart de l'heure joyeuse, l'école de la rue de l'Élysée, la bibliothèque nationale, le dépôt légal, bref, un travail très complet, mais absolument isolé. Si bien qu'on s'interroge sur le pourquoi du choix de ce sujet. Est-ce que c'était l'intérêt d'un enseignant, l'intérêt de l'étudiant, l'intérêt du directeur de mémoire, 1979, et je n'en sais pas plus. Enfin, Eugène Morel, présent en ligne, sur Google, interrogation Eugène Morel donne 484 000 occurrences en 0,27 secondes. Je n'ai pas évidemment été vérifier les 484 000 occurrences. J'ai quand même regardé les 11 premières pages. Sur Google, recherche de livres, on trouve mention de bibliothèque et de la librairie publique, mais on ne peut pas les feuilleter. Par contre, on peut lire des extraits de l'ouvrage de Jean-Pierre Séguin et la thèse de Gaëtan Benoît en anglais et en intégralité. Il n'y a rien sur ArchivSeek. Sur Wikipédia, un article de 6 lignes avec la liste des publications de Morel. Dans la bibliothèque numérique de l'ANSSIM, bibliothèque et la librairie publique, les conférences de 1911 et 1913 en intégralité et gratuitement. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Eugène Morel est sur Facebook. Vérifiez. Il y est. Alors, quelle analyse faire de cette longue recension? Alors, il me semble, mais comme vous l'avez compris, je n'ai pas tout lu, je n'ai pas tout vu. Il me semble que la postérité de Morel est d'abord morale, sans jeu de mots. C'est une figure tutélaire que l'on évoque pour appuyer sa démonstration. Morel serait d'une certaine façon le garant du fait que l'on pense bien. Je me demande qu'est-ce qu'il penserait de cette posture que, d'une certaine façon, on lui a affectée. Pour finir, évidemment, je lui donne la parole. Une seule instruction vaut, celle qu'on se donne à soi-même. On parle trop, il faut apprendre à réfléchir. La réflexion veut du silence, donc taisons-nous et réfléchissons.